soir, donc cette deuxième partie donc de la soirée donc sur des séminaires philosophiques de la Maison populaire de Montreuil sur philosophie esthétique du dédoublement. Donc cette soirée était consacrée donc plus à la philosophie. Et demain sera plus consacrée donc au théâtre et donc au rapport entre dédoublement et action et représentation. Et donc maintenant c'est donc Samuel Tronson donc qui va parler des limites du sujet et donc comment est-ce que la notion de double et dédoublement est interprétée et comprise du point de vue logique, du point de vue du langage. Donc Samuel Tronson qui est post-doctorant à l'université Paris 8 et donc à qui je vais laisser la parole pour son exposé.
Alors, j'aime pas du tout parler avec un micro. Déjà, ça commence mal. Alors, comment introduire ça? C'est un petit peu difficile, en fait, parce que je suis un peu le cheveu dans la soupe par rapport au sujet qui a été évoqué tout à l'heure, puisque, justement, moi, je suis de formation philosophie analytique. Et ce que je vais représenter ici, c'est plutôt justement le pire en plus de ce qu'il y a en philosophie analytique, puisque c'est la philosophie de la logique. Et en particulier la logique mathématique et ses implications notamment sur tout ce qui concerne le langage, la communication, la cognition. Donc ça ne va pas être simple. C'est dommage du coup que les deux conférenciers soient partis pour cette raison-là. Alors, je ne pense pas du tout représenter la philosophie analytique, pour le coup, puisque même si c'est ma formation, la manière dont je traite le sujet, dont je pose les questions, va plutôt à contre-courant en fait, de la tradition. Mais tout en restant finalement dans une ligne, même si elle est critique, par rapport à cette tradition de philosophie analytique. Et ce que je vais du coup essayer de montrer pour rester un petit peu dans la suite de ce qui a été dit tout à l'heure, c'est parce que finalement, sur la question de la vérité, par exemple, qui a été évoquée tout à l'heure, la logique a beaucoup changé, beaucoup évolué, au point que les critiques qui ont été données tout à l'heure sont plus tout à fait valables. Donc ce que je vais essayer de montrer, pour le coup, c'est à quel point ces choses-là ont évolué, posent complètement différemment la question du sujet, notamment en ce qu'elles essayent de prendre en compte le dédoublement comme quelque chose de fondamental, enfin pas tout à fait le dédoublement, on verra exactement sur les termes, mais disons le dédoublement pour l'instant en première approche comme un élément fondamental dans la fondation du langage et la fondation de la cognition. Donc finalement la proposition que je vais essayer de défendre, elle est très simple, c'est l'idée de dire que le sujet est entièrement le produit de ces interactions, ce qui est au fond une idée assez banale pour les gens qui connaissent les sciences humaines, puisque c'est quelque chose qui finalement traverse toute l'histoire des sciences humaines, qu'on parle de psychanalyse ou de sciences sociales par exemple. C'est une idée banale, mais en même temps qui est très mal défendue finalement par les sciences humaines, puisque c'est une idée tellement acceptée qu'au fond on passe jamais de temps à la démontrer, puis surtout on ne sait jamais exactement comment la formaliser, comment la thématiser. Et quand on dit le sujet le produit de ces interactions, finalement, la première question qu'on peut se poser, c'est de savoir si c'est le sujet qui vient en premier ou si c'est les interactions, dans la mesure où le sujet est produit des interactions, à savoir, est-ce que ce sont les interactions qui viennent d'abord ou est-ce que c'est le sujet? Et donc la thèse que je soutiens va plutôt dans le sens de l'interaction qui apparaît en premier, qui est première, le sujet étant non seulement le produit des interactions, mais quelque chose qui se constitue au fur et à mesure de l'interaction. Alors, quelle que soit la posture choisie sur ce type de problème, on réduit toujours à une question de langage, finalement. Et c'est un peu la tarte à la crème des sciences humaines contemporaines et de la philosophie au XXe siècle, c'est-à-dire, de toute façon, tout se limite à des questions de langage. Et finalement, être un sujet, avant tout, premièrement, c'est être un sujet logique, c'est-à-dire le sujet d'une phrase. Ce qui est une affirmation, en fait, plutôt radicale et même plutôt extrême. Moi, j'adhère pas complètement finalement à cette chose-là, mais au fond, c'est la méthodologie la plus basique et la plus partagée dans ce milieu. Et donc, être le sujet d'une phrase, c'est être le sujet d'un verbe d'action, par exemple. Donc, on peut voir le sujet comme quelqu'un qui est capable de faire des actions. C'est être le sujet d'un verbe épistémique, un verbe de connaissance. Donc, c'est être un sujet de connaissance. Et puis aussi, ça peut être aussi être le sujet d'un énoncé plus complexe que simplement une juxtaposition sujet-verbe. Et dans la question sur le fait d'être le sujet d'un énoncé, la question du sujet se redouble en fait. C'est-à-dire qu'on peut énoncer quelque chose sans être obligatoirement le sujet qui énonce. On peut simplement citer par exemple quelqu'un et être donc le sujet d'une phrase dans laquelle on n'est pas l'énonciateur. Donc la question du sujet, quelle que soit la manière dont on se la pose, elle semble paradoxale. C'est-à-dire que finalement, la proposition que j'énonçais au départ, c'est-à-dire le sujet et le produit de ces interactions, quand on analyse, elle est à la fois fausse et vraie. C'est-à-dire qu'elle est fausse au sens où elle est quelque part absurde dans l'intuition immédiate, c'est-à-dire que dans nos interactions avec d'autres individus ou avec le monde en général, ce que nous percevons au contraire, ce sont des individus bien discernables. À jamais, à aucun moment, on a l'impression de percevoir une interaction. Quand on est face à un individu et qu'on interagit avec lui, on est bien face à un individu. Et donc la question de définir le sujet comme le résultat d'une interaction semble complètement absurde finalement dans ce cas-là. Et à l'inverse, on peut considérer qu'elle est même non seulement vraie mais triviale, dans la mesure où quand on essaye de percevoir les autres ou soi-même en tant que sujet dans le temps, dans l'évolution, finalement, cette idée que le sujet est le résultat de ces interactions semble au contraire complètement évidente. Et même pas, il semblerait même qu'il ne soit pas possible de la remettre en question finalement. Donc ce que nous percevons dans l'évolution, c'est le fait que justement les sujets sont permanents à travers l'expérience que nous pouvons avoir d'eux et à travers leur histoire. Mais finalement, ce paradoxe n'est qu'apparent, simplement parce que cette dualité, ce paradoxe entre le sujet en tant qu'individu, si vous voulez, et le sujet en tant qu'histoire, finalement, c'est simplement les deux manières d'accéder au sujet. Ce n'est pas deux visions du sujet. Traditionnellement, dans l'histoire de la philo ou dans l'histoire des idées, on aurait l'impression qu'il y a vraiment deux théories, une qui essaye de considérer le sujet comme une histoire et le sujet comme un individu, quelque chose de fixe, alors qu'au fond, ce ne sont que deux manières d'aborder exactement la même chose, c'est-à-dire le sujet. Donc, on essaiera de voir dans la suite le sujet d'une part en tant qu'être, c'est-à-dire en tant qu'entité vraiment stable, fixe, qu'il serait possible de définir. Donc c'est un sujet synchronique. Après, il y aurait différentes manières de le définir, ce n'est pas la question. On pourrait voir le sujet comme une configuration psychique ou comme le résultat d'une histoire. Et le sujet en tant qu'existant, c'est-à-dire le sujet en tant que processus en train de se réaliser. Ce qui, au fond, ramène, si on regarde bien, j'essaye de ne pas employer des termes trop connotés, mais c'est un petit peu ce qui ramène à l'opposition entre essentialisme et existentialisme. Sauf que la question ici, ce n'est pas de faire un choix entre essentialisme et existentialisme, c'est bien de considérer les deux comme quelque chose de constitutif du sujet. Et malgré cela, finalement, ce qu'il faut reconnaître d'emblée, c'est que le sujet est pour une large part inaccessible, c'est-à-dire qu'au fond, on ne rencontre jamais de sujet. La seule chose qu'on rencontre, c'est des individus, donc des êtres, et que l'on peut percevoir sous la forme d'une histoire. Mais de sujet, finalement, on n'en rencontre jamais. C'est tout le paradoxe de la question. Donc finalement, l'être et l'existence sont les seuls moyens d'accéder au sujet, même si ce ne sont pas finalement ce ne sont pas ce n'est pas le sujet en lui-même. Et ce qu'il faut remarquer, deuxièmement, ce qu'il faut remarquer comme paradoxe aussi, c'est le fait que l'observateur étant impliqué dans la relation, il est donc impliqué dans le sujet. Donc, de ce point de vue-là aussi, le sujet est inaccessible. Donc, ça, c'est un paradoxe qui est assez connu en psychologie et puis d'une manière générale dans toutes les sciences expérimentales. Moi, je connais l'exemple d'un éthologue, par exemple, qui travaillait sur l'observation des singes et qui se rendait compte au bout d'un moment qu'un des singes dans la population qu'il observait commençait à faire des nœuds, parce qu'il imitait en fait un humain en train de faire des nœuds, des lacets, de faire ses lacets. Et il s'était rendu compte donc que finalement c'était le singe qui s'était pour le coup transformé en observateur et avait appris quelque chose de l'être humain. Et il prenait cet exemple finalement pour expliquer à quel point l'observateur n'est jamais neutre. C'est-à-dire que l'observateur, de toute façon, même s'il essaye de ne pas intervenir dans la relation, dans l'observation du sujet, de toute façon prend une place et donc influence quelque chose au point qu'on ne peut pas réellement accéder au sujet. Il y a de toute façon une interaction, il y a de toute façon une modification qui se fait. Comme je disais tout à l'heure, finalement, cette affirmation selon laquelle le sujet est le résultat de ces interactions n'est pas si nouvelle, puisque je disais qu'elle irrigue de toute façon tout le champ des sciences humaines depuis le début. Donc dire quelque chose de nouveau sur la question du sujet, c'est pas, non seulement ce n'est pas évident, mais en plus on se demande en quoi pourrait résider une nouveauté. Et la seule nouveauté qu'on puisse apporter, finalement, ce n'est pas tant dans cette affirmation que je plaçais en entrée d'exposé, c'est plus dans l'idée de présenter une manière différente de connecter les concepts entre eux, et une manière différente de parler de la processualité, c'est-à-dire de ce qu'on pourrait appeler l'incarnation du sujet, comment il s'incarne, dans quel type d'action, etc. Et ce qui est probablement assez difficile à défendre dans le cadre de ce type de rencontre, finalement, c'est que la réponse que je vais donner, elle est essentiellement, elle pourrait même être vue comme positiviste, elle est même réductionniste à la rigueur, puisque c'est une réponse qui vient non pas directement des sciences humaines, mais plutôt d'un point de rencontre entre les mathématiques, l'informatique théorique, les sciences cognitives, les sciences sociales, les sciences du langage. Donc par rapport à cette définition de l'être et de l'existant, on peut voir l'être comme ce qui est invariant par des transformations. C'est-à-dire il reste identique dans l'histoire. On peut prendre n'importe quel individu, on peut lui couper un bras, c'est pas pour ça qu'il n'est plus cet individu-là. Il peut y avoir tout un ensemble de transformations réalisables dans l'histoire, dans l'historique des individus, sans que cet être ne change finalement d'identité. Et à l'opposé, l'existant, au contraire, sont des comportements qui sont ancrés dans une réalité. Donc lui, il est tout le temps en train de varier, tout le temps en variation dans le réel. Mais ce qui le rend identique, finalement, c'est le fait que dans le langage, il ne change pas. Donc il y a vraiment une opposition entre l'être et l'existant qui est liée, finalement, au fait qu'il y en a un qui est conçu à travers le langage et l'autre qui est conçu à travers son action ou sa réalisation. Alors je vous donne une définition du sujet qui est un petit peu brutale, puisque c'est une définition qui vient en fait des mathématiques, plus précisément de la logique. Et donc, qui viendrait définir le sujet comme un espace de comportement qui sont clos par biorthogonalité. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose comme ça, mais biorthogonalité, c'est un peu ce qu'on appelle ici le dédoublement, en vérité. C'est-à-dire, finalement, ce que cette définition veut dire, c'est que le sujet ne se définit que parce qu'il rencontre un autre sujet qui est son double. Et c'est par la rencontre avec ce sujet qui est son double que finalement il a réussi à se percevoir lui-même comme sujet. Donc les comportements de A orthogonal, c'est-à-dire l'autre sujet, définissent la limite qui me permet moi de me concevoir comme sujet. Et c'est là où il y a une idée importante en fait, c'est que, et c'est pour ça que le titre de l'exposé c'est les limites du sujet, parce que finalement c'est pas véritablement la question du sujet qui est convoquée ici, c'est plus la question de la limite. Et finalement, si on regarde bien, c'est un problème épistémologique central dans les sciences humaines, que ce qu'on parle de culture, qu'on parle d'individu, enfin de culture au sens culture communautaire, d'individu ou d'être rationnel pour l'économie, etc. La question, c'est vraiment la question de la limite. C'est-à-dire, à partir de quel moment je peux considérer que je place une discrimination entre, par exemple, un groupe humain et un autre. À partir de quel moment je considère que là, je suis en train de sortir d'une certaine définition d'un groupe humain ou à partir de quel moment je peux considérer que la limite du sujet a été franchie. Ce qui peut paraître une question finalement assez comment dire qui peut paraître finalement sans fondement, puisque l'habitude nous amène plutôt à considérer que, par exemple, derrière une notion culturelle comme, je ne sais pas, une ethnie, il y a un groupe vraiment homogène qu'on peut discriminer dans la réalité par des caractères propres, etc. Ce qui est complètement faux, si on regarde bien. Puisque ne serait-ce que la question du métissage remet entièrement en question ce type de définition. Et il convient, si vous voulez, finalement de poser autrement cette question, parce que notre conception est restée finalement basée sur ce type de vision du monde, alors que la réalité historique a changé. C'est-à-dire qu'il y a un siècle, il était encore possible de considérer des entités ethniques, par exemple, entièrement homogènes, discriminables dans la réalité par des caractères spécifiques, etc. Alors que désormais, ce n'est plus possible. Alors du coup, pour poser cette question du sujet, pour essayer de faire correspondre cette définition, je vais essayer de placer le sujet dans deux milieux dans lesquels on peut l'observer. Le sujet dans la connaissance et le sujet dans la communication. Et je vais évidemment passer par une critique de l'idéal traditionnel, celui d'ailleurs qui a été porté par la philosophie analytique en grande partie. Alors l'idéal corrompu par rapport à la théorie de la connaissance, l'idée principale, c'est de dire que le sujet de connaissance, d'abord, peut tout faire, parce que dans la connaissance, on a le droit de tout faire, on a le droit de relier tout ce qu'on veut relier. Il dispose d'outils, qui sont des outils essentiellement logiques ou conceptuels, et il applique ces outils, il applique son savoir-faire sur un matériau dont on ne connaît pas exactement la nature, mais qui est en gros un matériau composé à la fois de ce qui fait sa cognition, donc de ses pensées, de ses expériences psychiques, etc., de ses sentiments, de ses émotions, et du mobilier du monde, c'est-à-dire les objets qu'il peut discriminer dans la réalité. Et avec ces moyens-là, il arrive à se façonner une représentation du monde qui correspond, oui ou non, à la réalité. C'est peut-être pas la question au départ. Au départ, simplement, il réalise des choses et il essaye de façonner une représentation du monde. Et effectivement, cette représentation du monde va être évaluée dans sa relation au monde réel, dans une relation qu'on peut appeler l'adaptation. Et essentiellement, on va le voir en termes de vrai ou faux. C'est exactement ce que disait le premier conférencier, c'est-à-dire traditionnellement, si on essaye de définir la connaissance, au fond, on va dire, voilà, on est capable d'élaborer des théories. Et puis après, toute la question, c'est de savoir si cette théorie est vraie ou fausse. Et savoir si une théorie est vraie ou fausse, ou une vision du monde est vraie ou fausse, c'est essentiellement la vérifier, c'est-à-dire chercher à la confirmer, ou au contraire, chercher à la contredire, c'est-à-dire tester notre théorie par le fait de communiquer, par exemple, et de recueillir des critiques, etc. Donc on reste sur cette idée, finalement, que de toute façon, cette théorie sera soit vraie, soit fausse, et que si elle est fausse, il faudra la corriger. Si elle est vraie, elle sera adaptée. Or, les progrès, on va dire les plus récents, en tout cas, que ce soit en sciences cognitives ou en logique mathématique, montrent exactement le contraire. Enfin, exactement le contraire, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas une conclusion entièrement relativiste, si vous voulez. C'est pas qu'il n'y a pas de vérité du tout et qu'on peut faire n'importe quoi et dire n'importe quoi, c'est pas tout à fait ça. Mais disons que, en tout cas, le point névralgique, c'est l'idée que la connaissance n'est pas mécanique, contrairement à ce qu'on pourrait présenter. Et contrairement surtout à toute la théorie de la connaissance occidentale qui voudrait que justement les choses soient mécaniques. Et donc finalement, l'opposition qui était un petit peu sous-entendue tout à l'heure entre l'imagination et la science, enfin l'imagination et la connaissance, qui seraient deux choses complètement opposées dans leur manière de fonctionner, n'est pas valide de ce point de vue-là. Puisque ce qui est défendu finalement par les sciences cognitives actuellement, c'est au contraire l'idée que après tout, les processus qui dirigent l'imagination et la connaissance ou la science sont exactement les mêmes. Par contre, ce sur quoi elles s'appliquent et la manière dont on vérifie ou on contredit une expérience ne sont pas du tout les mêmes procédés. Alors pourquoi on en vient à dire que la connaissance n'est pas si mécanique ? Trois exemples. Déjà, il y a des choses vraies qui sont objectivement fausses. Si on regarde la théorie économique, par exemple, moi je me souviendrai toujours mes premiers cours de sciences éco, où on me disait qu'en théorie néoclassique, si bon, on a le modèle, on a la réalité. Si la réalité ne se conforme pas au modèle, c'est la réalité qui a tort, c'est pas le modèle. Parce que le modèle, il est bien fait. On a pris les bons axiomes, on a décidé des bonnes choses, et qu'inévitablement, c'est quelque chose cloche dans la réalité. Et ça, déjà, sur les sciences sociales et les sciences économiques, c'est un problème extrêmement important. C'est que quand on discute, par exemple, avec des sociologues, on se rend compte qu'en fait, dans un même laboratoire, il peut y avoir 4, 5, 6 courants différents de sociologie qui se contredisent sur pas mal de points. Et au fond, en même temps, même s'ils se contredisent, ils ont quand même tous ensemble raison. Pour une raison qui est en fait très simple, c'est que un modèle est fait pour expliquer quelque chose. Il n'est pas fait pour expliquer toute la réalité. Et c'est ce qu'on oublie très souvent dans la conception classique de la connaissance. C'est cette idée que finalement, lorsqu'on est en train de créer un modèle, notamment dans les sciences humaines, lorsqu'on est en train de créer un modèle, on est en train d'essayer d'expliquer quelque chose de précis. On n'est pas en train de développer un modèle qui est censé expliquer, dans le cas des sciences sociales, tous les comportements sociaux. Mais souvent, c'est une manière de trancher par rapport au réel en observant, alors peut-être pas un morceau, mais en tout cas une série de comportements qui peuvent exister effectivement dans les relations sociales. Deuxième exemple, c'est des choses tenues pour vraies qui finissent par être connues comme fausses. Et là, sur ce point-là, enfin, c'est un petit peu politique, c'est moins scientifique, mais on peut toujours se rappeler que les premiers défenseurs de la colonisation n'étaient pas des fascistes. En général, c'était plutôt des humanistes. Et que finalement, ce qui paraissait vrai pour ces personnes-là à l'époque, ou pour ne pas prendre l'exemple de la colonisation, on peut parler de Napoléon qui exporte la Révolution française, finalement en faisant la guerre, des choses qui paraissaient vraies à un moment se révèlent fausses parce qu'on se rend compte qu'on est parti des mauvais axiomes et puis on avait mal considéré les choses dès le départ. Il y a un exemple beaucoup plus intéressant, c'est des choses vraies qui deviennent encore plus vraies mais en perdant leur fondement. Et donc là, c'est un exemple assez connu sur Machiavel qui, quand on étudie ses lettres, change au fur et à mesure de sa vie en reparlant des mêmes événements que ce qu'il relatait dans ses premiers ouvrages, change de version en permanence. Et plus il vieillit, et plus la version, finalement, l'explication qu'il donne de ce qui s'est passé à l'époque à Florence, change et même devient presque contradictoire. Et bizarrement, même si l'explication, finalement, n'a plus aucun rapport avec l'explication de départ, ce qui était conçu était vrai. C'est-à-dire que la théorie, la représentation que se faisait Machiavel du problème était la bonne, c'est juste que les fondements qu'il utilisait pour le justifier n'étaient pas les bons. Donc, par rapport à au principe que j'avais évoqué juste avant, il paraît assez clair aussi que le sujet n'est pas tout puissant, contrairement à ce qu'on pourrait croire, en matière de connaissances en tout cas. Alors déjà parce qu'il ne peut pas penser l'impensable et dire l'indicible, mais plus sérieusement, d'un point de vue mathématique en tout cas, parce qu'il ne peut pas démontrer l'indémontrable de toute façon. C'est-à-dire que même si le sujet est entièrement libre de produire des connaissances exactement de la manière dont il veut les produire et éventuellement avec toute l'imagination qu'il peut y mettre, de toute façon il y a des choses qui sont réellement inatteignables. Donc le sujet est entièrement libre, mais en même temps il est obligé de se conformer à une certaine réalité qui est la réalité de la connaissance elle-même, qui n'est pas la réalité extérieure. Donc notre conception de la connaissance est entièrement fausse finalement, parce que c'est pas une question de vérité et de fausseté. C'est une question de processus par lesquels on arrive à établir la connaissance, et ces processus, effectivement, impliquent la vérification et impliquent la contradiction. La vérification, généralement, pour un scientifique, ça ne veut pas du tout dire chercher à montrer obligatoirement que c'est vrai. Ça veut dire trouver des données qui confirment, trouver aussi des données qui infirment la théorie, pour pouvoir justement définir les limites exactes d'une explication, les limites exactes d'un modèle. Et c'est ce qui normalement devrait être fait dans toute bonne étude scientifique. C'est-à-dire que mettre en place un dispositif expérimental en psychologie, par exemple, ce n'est pas suffisant. Ce qu'il faut mettre en place, c'est aussi une vérification que le dispositif expérimental ne va pas perturber l'objet qu'on est en train d'étudier, qui ne va pas le soumettre de toute façon à ce qu'on voulait vérifier, et ensuite avoir une critique du dispositif expérimental. S'il n'y a pas la partie critique, c'est-à-dire le fait de placer une limite dans le modèle, de toute façon, l'expérience elle-même n'a aucune signification. Et du côté de la contradiction, de la même manière, la contradiction, ce n'est pas obligatoirement le fait de chercher à rendre faux quelque chose, mais c'est le fait de tester, évidemment, en supposant faux certaines choses, fausses certaines choses, de tester par le dialogue des voies en cherchant les contradictions, et quand on trouve une contradiction, à repousser la contradiction le plus loin possible. Et évidemment, le travail du scientifique, du chercheur, c'est de repousser ces contradictions, c'est pas de les éliminer complètement. Éliminer complètement les contradictions, c'est impossible. Et même exiger d'un chercheur qu'il puisse éliminer complètement les contradictions, c'est non seulement impossible, mais c'est même malhonnête dans la mesure où ça serait partir du principe qu'il existe une solution finale, effectivement, aux problèmes, aux questions qu'on se pose. Ce qui est exactement ce qu'on critique en général quand on est face à un réductionniste ou à quelqu'un qui essaye d'imposer une théorie par la force. Donc, pour vous donner un exemple de ce qu'on appelle le réductionnisme en théorie de la signification, c'est justement sur la question de la vérité. Donc, comment les réductionnistes définissent la vérité d'un énoncé, donc la vérité de X. On définit la vérité de l'énoncé X s'il est effectif dans le monde matériel. Alors, ça paraît assez conceptuel et assez profond, alors qu'en fait, finalement, on ne dit pas grand-chose. Ce que cet énoncé est en train de dire, c'est simplement que si l'énoncé « la neige est blanche » est vrai, ça veut simplement dire que la neige est vraiment blanche. Ce qui est au fond... Alors, il faut bien voir en plus que ça, c'est une théorie extrêmement dominante, hein, dans la philosophie contemporaine et dans la théorie de la signification, alors qu'au fond, elle ne fait que... D'abord, finalement, elle parle de phénomène citationnel, diraient les linguistes, c'est-à-dire le fait de citer un énoncé et ensuite de vérifier la validité de cet énoncé. Mais en plus, elle ne dit rien, finalement, sur la valeur intrinsèque de cet énoncé et de cette connaissance. Elle dit juste que, oui, si on veut, on peut aller vérifier que la neige est vraiment blanche. Mais elle n'apporte rien sur la connaissance en particulier de cette chose. Donc il y a une autre position qui n'est pas du tout dominante pour le coup, mais qui est quand même assez connue, qu'on appelle l'antiréalisme, normalement, que moi j'appelle l'antiréductionnisme absolu, parce que finalement c'est un antiréductionnisme qui est presque aussi totalitaire que le réductionnisme lui-même, mais qui a au moins le mérite d'exister, et qui nous dit exactement le contraire, qui nous dit que la connaissance est une activité essentiellement sans langage, et qu'elle est l'effet d'une volonté plutôt que d'une objectivité, c'est-à-dire la connaissance, ce n'est pas quelque chose qui se rapporte à la réalité. Il faut oublier ce rapport à la réalité, c'est pour ça qu'on appelle ça un antiréalisme, et il faut oublier le langage. Et c'est un petit peu pour ça qu'en introduction, je vous disais que, malgré tout, même si évidemment notre moyen d'accès à la connaissance, à la signification, au langage, au concept, c'est le langage lui-même, en même temps, moi, cet aspect-là de la connaissance contemporaine m'a toujours dérangé. Et je reste profondément persuadé, je reste profondément d'accord finalement avec cette partie-là, même si c'est un peu absolu, en tout cas profondément d'accord avec l'idée que la connaissance n'est pas un phénomène linguistique, et que la connaissance ne passe pas par le langage, mais que le langage est un moyen de communiquer la connaissance. Et en tant que moyen de communiquer la connaissance, il est par nature, au fond, imparfait, susceptible d'ambiguïté, susceptible de produire des erreurs, etc. Le deuxième point sur lequel insiste cette théorie, c'est sur l'idée que finalement, il n'y a pas de vérité, il y a une expérience de la vérité. C'est-à-dire que parler de vérité ne sert à rien, ce dont on peut réellement parler, c'est de l'expérience privée, personnelle, individuelle, que nous pouvons faire chacun de quelque chose qui nous semble être la vérité. À la différence de la définition précédente, où on semblait dire que la vérité, c'était quelque chose de vraiment définissable, il suffit d'aller vérifier que la neige est blanche, etc. Le dernier point n'est pas très important, c'est un point plutôt de spécialiste, mais il est clair que par contre, cet anti-réductionnisme, ce qu'on appelle donc anti-réalisme, a un énorme défaut, c'est de réduire les individus à des entités qui ne sont pas capables de communiquer puisqu'on élimine le langage. Alors, il y a un double résultat mathématique extrêmement important sur ces questions-là, qui est souvent très mal traité dans la littérature. C'est ce qu'on appelle le théorème d'incomplétude de Gödel. Donc Gödel, qui est l'objet de tous les fantasmes depuis une quinzaine d'années. D'abord parce que c'est un théorème relativement incompréhensible au départ, enfin techniquement très difficile, mais surtout parce que il conclut sur quelque chose qui est très philosophique, qui n'est pas vraiment mathématique, qui n'est pas vraiment technique. Et donc il est l'objet de tous les fantasmes, notamment à l'approche de l'an 2000, tous les millénaristes de tous les pays ont voulu démontrer que le théorème d'incomplétude de Gödel était faux. Et donc dans les laboratoires de maths, on recevait énormément de mails de personnes qui pensaient avoir trouvé une preuve de l'absurdité du théorème d'incomplétude juste avant le passage à l'an 2000 pour éviter on ne sait quelle catastrophe. Et donc ce qu'on dit rarement, par contre, c'est que Gödel, en vérité, a énoncé deux théorèmes, le théorème de complétude et le théorème d'incomplétude. Le premier, d'ailleurs, c'était le théorème de complétude, ce qui renforce encore plus le mystère, finalement, autour de Gödel, parce qu'on se demande comment il a pu prouver, dans le même temps, un théorème de complétude et un théorème d'incomplétude. Donc ce théorème de complétude dit pas grand-chose, en fait, il dit simplement que dans tout langage comportant au moins la logique naturelle, c'est-à-dire la logique que tout le monde utilise au jour le jour, ce qui est vrai est démontrable. Toute la vérité peut être rapprochée d'une preuve que n'importe qui peut trouver par des moyens plus ou moins mathématiques. Si on est dans les mathématiques, ça sera des moyens mathématiques. Si on n'est pas dans les mathématiques, ça sera autre chose. En tout cas, quel que soit le langage, normalement, ce qui est vrai doit être démontrable. Inversement, ce qui est démontrable doit être vrai. Et donc, quelques années plus tard, Gödel, sans se contredire pour autant, démontre le théorème d'incomplétude qui dit que dans tout système, dans tout langage dans lequel on a un minimum d'expressivité, il existe des problèmes sans solution, c'est-à-dire il existe des choses vraies qui ne sont pas démontrables. Et pourquoi il n'y a pas de contradiction finalement dans ces deux affirmations? C'est simplement dans le fait qu'il dit en vérité deux choses complètement différentes. Et notamment dans la deuxième, il y a quelque chose de très important, c'est qu'il dit dans tout système doué d'un minimum d'expressivité. C'est-à-dire que si on veut regarder le langage en tant que tel comme un système de symboles qu'on peut combiner avec des règles de grammaire, etc., oui, tout ce qui est vrai, théoriquement, est démontrable. Alors que si on regarde le langage comme un système symbolique qui est capable de signifier des choses, à partir du moment où il y a un minimum de signification, on a besoin d'ambiguïté. On a besoin de choses qui ne sont pas démontrables. On a besoin, en fait, d'un espace, d'une distance entre ce qui peut être considéré comme vrai et ce qui est réellement démontrable par la connaissance. Donc on a la chance en France d'avoir deux grands logiciens, Girard et Krivine, qui ont largement défendu en fait ce point de vue-là, qui est rarement compris en fait, parce que comme je disais tout à l'heure, ces deux théorèmes ont éveillé beaucoup de fantasmes. Mais finalement, ces deux logiciens essayent depuis une vingtaine d'années de faire comprendre vraiment ce qui est profond dans le théorème de Gödel. Et Girard explique ça en termes de récessivité, d'expansivité. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, ce que veut dire Girard, c'est que la vérité n'est pas un concept fonctionnelle n'est pas quelque chose qui fonctionne, ne marche pas, n'est pas intéressante, pour la simple raison que plus on cherche à démontrer que quelque chose est tout le temps vrai, et au plus on augmente le risque d'échouer. Tout simplement parce que le contre-exemple existe toujours et qu'au plus on cherche des moyens de démontrer que quelque chose est vrai, et au plus on risque de tomber sur un contre-exemple. Si vous voulez démontrer que tous les mammifères ont une certaine caractéristique, vous trouverez toujours, au bout du compte, à un moment, un mammifère qui ne tient pas cette caractéristique. Alors que la démonstration est un concept expansif, c'est-à-dire qu'à l'inverse, au plus on cherche à démontrer et au plus on démontre. Mais on ne démontre pas obligatoirement ce qu'on cherchait à démontrer. L'important, c'est pas ça. L'important, c'est qu'au plus on cherche à démontrer, on ne trouvera peut-être pas la preuve de ce qu'on cherche, mais on démontrera quelque chose. Et éventuellement même, on pourra démontrer que cette démonstration n'est pas possible, ou que autre chose est possible, ou que la méthode utilisée jusqu'ici n'est pas possible, etc. C'est exactement, si on regarde bien, sur d'un point de vue un peu plus humoristique, c'est exactement pour ça qu'on appelle les chercheurs des chercheurs et pas des trouveurs. C'est parce qu'un chercheur, sa fonction, c'est de chercher, et c'est en cherchant qu'il finit par démontrer des choses. Sinon, on appellerait ça un trouveur, et à ce moment-là, ça serait récessif. Et Krivine a une autre interprétation, mais qui revient un petit peu à la même chose. Alors, en plus, c'est relativement difficile d'expliquer ce genre de choses, parce qu'il y a tout un background plutôt informatique, en général, qui convient mieux pour l'expliquer, mais pour ceux qui connaissent l'informatique, Krivine dit que la complétude, au fond, c'est ce qu'on appelle les compilateurs dans les machines. C'est-à-dire, en gros, le théorème de complétude, ça revient à dire que le langage est capable d'encoder tous les problèmes. Ça, c'est une propriété du langage qui est connue depuis toujours. C'est Saussure qui a été un des premiers à la définir. Donc le langage est capable d'encoder tous les problèmes. Voilà. La complétude ne fait qu'énoncer une propriété du langage. Et l'incomplétude, au contraire, revient à dire qu'il n'existe pas de langage qui soit capable d'encoder tout, y compris le langage lui-même. Donc au fond, l'incomplétude est une idée assez simple. Elle dit que même si le langage est capable d'encoder tous les problèmes, il n'existe pas de langage qui soit capable lui-même de définir le langage, etc. On va sauter deux, trois petites choses, je pense. Alors du coup, comment définir le sujet? Il y a un schéma, mais ce sera un petit peu trop long de l'expliquer. Comment on va définir le sujet? Non pas comme une entité qui aurait une limite claire, comme je disais tout à l'heure, puisque moi, je pense que c'est pas possible, en tout cas d'un point de vue théorique et mathématiques, ça ne fonctionne pas. Le seul moyen de définir le sujet, dans ce type de théorie en tout cas, c'est, comme je le disais, de le définir par dualité, c'est-à-dire le sujet, c'est cet objet qui se construit par la rencontre avec une autre entité qui permet de le renvoyer à lui-même. Et donc, sur la question de la limite, évidemment, dans cette mesure-là, la limite du sujet est fluctuante. C'est-à-dire que la limite du sujet, finalement, dépend des interactions qu'il a avec son environnement. Mais c'est encore pire que ça, c'est que la limite du sujet change, au fond, en fonction de l'individu avec lequel il interagit à un moment précis. Donc, plutôt qu'une notion de frontière, pour cette question de la limite, ce dont on va parler, c'est plutôt de bordure. Et l'intuition la plus simple qui pourrait vous permettre d'avoir une idée un petit peu précise de ce à quoi ça ressemble, c'est en gros, ça serait une cellule. C'est-à-dire une cellule, elle a une membrane. Sa membrane, ce n'est pas une limite. Sa membrane, ce n'est pas une limite au sens d'une frontière qui serait entièrement close. Sa membrane, c'est un espace d'échange. Et c'est ça qui pose problème, finalement, dans la notion de limite du sujet. C'est qu'on voudrait, comme je disais tout à l'heure, par exemple, par rapport aux cultures, on voudrait que les choses soient étanches, que la limite soit bien discriminable, alors que ce qu'on oublie, c'est que la plupart du temps, la limite, c'est une surface d'échange. La limite, c'est une surface, c'est pas une frontière. Pour vous donner des exemples qui puissent donner une image rapide, il y a un exemple que j'avais pris il y a quelques années dans un autre exposé du même type. c'est par rapport aux écrits d'Aristote, il y a quelque chose d'assez étonnant, c'est que tout le monde pense que finalement la philosophie grecque, les écrits d'Aristote, c'est vraiment la culture occidentale. C'est vraiment quelque chose de représentatif de l'héritage occidental, et notamment du passage des Grecs à la civilisation chrétienne. Or, il y a un truc qui est quand même très étonnant, c'est que les écrits d'Aristote ont été perdus entre l'époque romaine et le début de l'ère chrétienne, perdus en Europe, puisqu'ils étaient par contre commentés, lus et relus dans le monde arabe et dans le monde juif, même traduits. Et bizarrement, on a récupéré les écrits d'Aristote et les écrits grecs en général par des théoriciens arabes qui les ont passés en fraude dans les Pyrénées, à une époque où non seulement on les avait perdus, mais en plus on les interdisait parce qu'on considérait que la pensée grecque était une pensée païenne. Alors non seulement ils ont été réintroduits par les Arabes, mais en plus ils ont été réintroduits après une succession de traductions qui font que finalement il y a une participation collective en fait à l'interprétation de l'œuvre d'Aristote. C'est-à-dire que l'œuvre d'Aristote écrite en grec a été d'abord traduite en arabe, ensuite elle a été retraduite en grec par les Arabes eux-mêmes, et ensuite elle a été transmise en Europe. Donc ce que je voulais dire par cette idée de limite qui ne peut pas être quelque chose d'infranchissable, c'est que même si on considère qu'Aristote, c'est vraiment un des fondements de la culture occidentale et de la culture européenne en particulier, de fait, de toute façon, c'est un objet culturel qui est partagé, parce que c'est un objet culturel qui est transmis à travers les cultures et qui n'est donc pas la définition d'une frontière. Donc dans la communication, les choses sont un petit peu différentes, mais disons que cette conception du sujet dans laquelle la limite n'existe pas, mais est l'objet d'un échange, va être extrêmement importante. Le modèle dominant en théorie de la communication, c'est ce qu'on appelle le modèle cybernétique, c'est-à-dire l'idée qu'il y a un sujet, enfin il y a un émetteur, pardon, il y a un récepteur de l'autre côté, il y a un milieu dans lequel l'émetteur et le récepteur peuvent communiquer, il y a un canal par lequel l'émetteur et le récepteur vont communiquer. Donc là on est déjà presque dans un schéma téléphonique. Un canal, c'est quoi? C'est un fil, et puis l'émetteur et le récepteur ont une sorte de dispositif pour décoder et encoder les messages. Et l'émetteur émet un message qui est transmis par le canal, qui éventuellement a des perturbations liées à l'environnement, qui arrive à l'oreille du récepteur. Le récepteur découvre le message, le décode et comprend ce que l'émetteur a voulu dire. Ce qui est quand même, vous en conviendrez, un modèle non seulement réductionniste, mais quasiment ridicule, hein, si on regarde bien. Et malheureusement, c'est vraiment non seulement c'est le modèle dominant, mais quelque part, c'est un modèle en plus bizarrement qui a été productif d'intuitions vraiment puissantes. C'est d'ailleurs ce qui est le plus étonnant dans cette histoire, c'est que ces modèles réductionnistes ont quand même sont responsables finalement du monde dans lequel on vit, qui est quand même un monde dans lequel il y a eu énormément d'innovations. Donc c'est assez étonnant, mais c'est comme ça. Alors ce que je vais essayer de montrer dans cette dernière partie, c'est justement comment on peut voir autrement le schéma de communication. Donc je vais vous expliquer le langage tel que ma fille vous l'expliquerait. C'est pas tout à fait vrai, c'est des observations d'enfants, mais c'est pas obligatoirement ma fille. Mais admettons que ma fille ait la capacité d'analyse et de raisonnement d'un chercheur en sciences humaines. Donc elle dirait que dans ses litanies et dans ses jeux, en vérité, elle teste des connexions symboliques. C'est-à-dire qu'elle ne cherche pas vraiment à dire des choses qui sont très conceptuelles ou très réelles ou qui correspondent à quelque chose qu'on attend d'elle, etc. La seule chose qu'elle fait, c'est qu'elle teste. Elle entend un nouveau mot, voiture, et puis elle va dire que tout le monde est une voiture, et que ça c'est une voiture, et ça c'est une voiture. Et elle sait pertinemment qu'au fond, ce n'est pas une voiture. Ce qu'elle cherche, c'est juste à tester les connexions possibles en regardant les réactions des adultes, et essentiellement de sa mère et de son père, quand elle propose une connexion possible. Et dans le deuxième exemple, Kabouli, Kaboulou, etc., là c'est un petit peu différent, c'est qu'elle teste toutes les permutations possibles dans son vocabulaire. Alors En général, la théorie classique du langage n'explique pas ce genre de choses. Hein. La seule chose qu'on dit, c'est que voilà, c'est des jeux d'enfants, etc. Alors que disons que la vision qui émerge actuellement dans les sciences cognitives va au contraire s'intéresser énormément à ce genre d'exemple, qui montre que finalement l'individu apprend le langage en faisant ce genre de connexion aléatoire, pas vraiment en essayant de décrire la réalité. Donc il y a d'autres exemples. Donc elle pourrait dire aussi qu'elle maîtrise des relations sémantiques qui dépassent sa connaissance réelle du vocabulaire. Il y a des termes un petit peu techniques, mais c'est une idée très très simple. En plus, c'est très facile à faire, même s'il faut un gros ordinateur. C'est que si on prend le dictionnaire du français, qu'on dessine le graphe sémantique du français, donc c'est un petit peu compliqué, mais ça prend pas énormément de temps. Donc on se retrouve avec un graphe qui a 40 000 points, qui correspondent à peu près aux 40 000 mots principaux du vocabulaire du français. Et puis quand on regarde un petit peu les plus gros points, ceux qui sont les plus connectés, on remarque par exemple, alors comment vous expliquez ça? Ce qu'on appelle des clusters, c'est-à-dire des nuages de points. Par exemple, si vous tapez au hasard dans votre graphe et que vous regardez l'entourage, le voisinage du mot crêpe, vous allez voir dans le voisinage du mot crêpe, évidemment, le mot blini, par exemple, qui n'est pas tout à fait une crêpe, qui est beaucoup moins utilisé dans le langage français, mais qui a des relations sémantiques assez fortes avec la crêpe, parce qu'il y a une ressemblance, parce qu'il va être utilisé dans un certain nombre de phrases qui sont similaires, etc., etc. Donc on va construire un graphe comme ça, qui représente la similarité dans le vocabulaire, en gros les champs lexicaux, si vous voulez, ou les relations de proximité sémantique entre les mots. Et ce qui est proprement étonnant, c'est que quand on regarde la manière dont un enfant apprend le langage, on remarque qu'en vérité, il se repère très efficacement dans les clusters de la langue française, qu'il ait 4 ans, 5 ans ou 10 ans. C'est pas la question. C'est-à-dire que ça ne dépend pas de sa connaissance du réseau sémantique. Et ça, c'est vraiment un fait étonnant. C'est-à-dire que là, dans l'exemple, par exemple, de j'ai mal au soutien-gorge, c'est un enfant qui veut dire j'ai mal au sein. Mais il n'a jamais entendu le mot sein. Ce qu'il a entendu, c'est sa mère dire. Mon soutien-gorge me fait mal. Donc lui, il a fixé de toute façon les choses comme ça. Ce qui est proprement étonnant, c'est qu'en vérité, le soutien-gorge va être dans l'environnement, dans le voisinage du mot sein. Ce qui veut dire que finalement, cet enfant qui dit j'ai mal au soutien-gorge, il ne dit pas quelque chose de faux. Il dit quelque chose qui est vrai relativement à sa connaissance du graphe sémantique et qui correspond effectivement à la manière dont se structure le vocabulaire du français. Elle est cassée la lumière, c'est un exemple beaucoup plus intéressant parce que là, c'est pas qu'il a vu sa mère dire j'ai mal au soutien-gorge, c'est que lui-même fait la connexion entre casser un objet et éteindre la lumière ou arrêter le feu. Il va considérer que c'est une sorte de coupure, c'est un cassage. Et effectivement, quand on regarde le graphe sémantique de la langue française, casser est dans le voisinage d'éteindre, fermer. Couper, plier, etc., etc. De la même manière, mais là sur un mode plus déductif, elle est capable de coordonner et d'intégrer des nouvelles liaisons qu'elle n'a pas vraiment apprises, mais qu'elle fait automatiquement. Par contre, alors dans l'exemple de Comment tu te calmes, c'est un enfant qui est de parents père français, mère italienne. Et qui parle les deux langues avec ses parents, mais qui n'a pas encore fixé le fait que ces deux langues, c'était deux contextes. Et donc lui, en fait, il mélange aisément les deux choses, mais il ne fait pas d'erreur. Quand il dit comment tu te calmes, au fond, sa phrase grammaticalement, et même d'un point de vue de signification, elle est entièrement correcte. C'est rigolo parce que je ne suis pas zazzère, tout le monde comprend. J'ai pas besoin de. Comme quoi, le graphe sémantique est vraiment. Le miel est fait par l'abeille, pareil. Là, c'est plus déductif déjà, mais c'est un petit peu pareil. Là, c'est des enfants qui sont en bas âge. Hein. C'est en gros entre. C'est de 3 ans à 5 ou 6 ans. Donc, c'est des choses qui sont quand même assez pertinentes. Alors le deuxième, le paradigme de la dispute de couple, parce que alors là pareil, je ne parle pas obligatoirement de mes disputes de couple, mais oui. Ah, vous n'avez pas compris. Ah, je croyais. Tu exagères et l'autre répond, non, je ne suis pas exagère. Mais ce qui est proprement étonnant là, dans cet exemple, c'est qu'elle n'a pas compris ce que ça veut dire exagérer, mais elle a bien compris que ce n'était pas très sympathique et qu'il ne fallait pas l'être et qu'elle n'est pas ce qu'on est en train de dire qu'elle est, quoi. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est pour ça que les sciences cognitives actuelles s'intéressent beaucoup à ce genre d'exemple, c'est que il y a quelque chose de beaucoup plus profond que de croire que l'enfant apprend la grammaire et qu'après il applique la grammaire. Ce qui, déjà, c'est pas. Déjà, ça marche pas, il y a beaucoup de gens qui connaissent pas la grammaire, mais bon, à la rigueur, on pourrait dire qu'ils la connaissent intuitivement, mais c'est pas vrai du tout. Et en plus, ça. Finalement, ça met en dehors du jeu. C'est un petit peu ça le problème de départ, en vérité, mais j'en parle pas vraiment dans cet exposé. Si vous voulez, ce modèle classique de la communication et du langage, il a un défaut extrême, c'est que c'est un modèle du langage parfait. Donc on conçoit un langage parfait, puis on croit que les individus apprennent un langage parfait. Le problème, c'est que, du coup, toutes les formes de langage qui ne correspondraient pas à ce langage parfait seraient des formes de langage dégénérées. Et c'est comme ça qu'on en vient à dire, finalement, qu'un autiste ne communique pas. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Enfin, c'est pas qu'un autiste ne communique pas, c'est que ses canaux de communication ne sont probablement pas aussi développés que nous, ou pas les mêmes. Mais supposer directement comme ça que les canaux de communication, que lui ne communique pas, n'est pas capable de communiquer, c'est quelque chose qui est relativement fort. Et qui empêche de penser différemment, finalement, par exemple, le problème de l'autisme. D'ailleurs, sur l'exemple des graphes sémantiques, ce qui était relativement intéressant, c'est que le chercheur qui avait développé ça arrivait à repérer des types d'autisme, à diagnostiquer des types d'autisme en fonction de la manière dont les autistes se servaient du graphe sémantique. Donc ça veut bien dire qu'il y a des connexions qui sont vraiment profondes avec le fonctionnement de l'apprentissage du langage lui-même. Donc le paradigme de la dispute de couple, c'est à l'origine, c'est une boutade entre logiciens, au moment où Jean-Yves Girard donc, a inventé sa théorie logique que j'utilise abondamment dans cet exposé sans le dire. Donc c'était une boutade parce que on expliquait justement cette question tout à l'heure dont je parlais dans les termes de dualité et d'orthogonalité, on l'expliquait en termes de dispute de couple. C'est-à-dire quand je vous disais le sujet se constitue par les interactions qu'il a avec un autre sujet qui le renvoie à lui-même et à ses limites, finalement c'est la dispute de couple. Enfin, le meilleur moyen de le comprendre, on va dire, c'est la dispute de couple. Et en vérité, je ne vais pas parler de dispute de couple, je vais parler de conflit en entreprise. Mais pour nous, le modèle, c'est celui de la dispute de couple. Donc ça, c'est des observations de conflits interpersonnels en entreprise. Alors, ce sera un peu long de vous expliquer exactement comment ça a été traité. Disons qu'on va dire que ça a été traité un peu sur un mode éthologique, et pas ni sociologique, ni vraiment psychologique. Ce qu'on remarque très rapidement dans ces conflits, c'est que réellement, les décisions sont prises, les décisions des acteurs dans le conflit sont prises en fonction des interprétations qu'ils font des intentions de l'autre. On pourrait enlever conflit personnel en entreprise, ça se passerait exactement pareil dans la dispute de couple. On réagit, on prend des décisions en fonction de ce qu'on interprète comme une volonté, comme une intention réelle chez l'autre. Et on croit que les intentions sont manifestes, elles ne sont pas du tout manifestes. Alors, la plupart du temps, si on va poser vraiment des questions aux acteurs du conflit, on se rend compte que ce qui est supposé comme intention de la part de l'autre, si le deuxième répond vraiment sincèrement, ce n'est pas du tout ce qui était supposé. Par contre, ce qui compte énormément, c'est les observations que font les gens. C'est-à-dire que ce qu'ils supposent comme une intention chez l'autre, en général, c'est le résultat d'une interprétation qu'ils font à partir de ses comportements. Ils se disent, s'il a dit ça, c'est qu'il doit sûrement penser ça. Et en fait, on fait ça en permanence. La différence, c'est que là, je prends volontairement l'exemple du conflit, parce qu'a priori, c'est dans le conflit qu'on voit le mieux où se situe le problème. Donc, dans ces conflits qui ont été observés, on vient là exactement sur l'idée de la limite. Ce qu'on observe surtout, c'est qu'il n'y a qu'une seule chose qui soit vraiment objective, c'est la surface d'échange, c'est-à-dire les interventions, les faits réels. Il est arrivé à telle heure, il m'a dit tel truc. Bon, ça ne peut pas être remis en question. Et d'ailleurs, en général, les acteurs ne le remettent pas en question. Ce qu'ils remettent tout le temps en question, c'est la raison pour laquelle ils ont dit quelque chose et la raison pour laquelle l'autre a interagi de cette manière, etc. Donc la surface d'échange, elle, elle est réelle, enfin, elle est objective. Et puis ensuite, il y a l'internalité et l'externalité. L'internalité, c'est la stratégie du locuteur, c'est-à-dire lui, ce qu'il veut obtenir, pourquoi il est dans ce conflit, qu'est-ce que finalement il cherche à avoir, que ce soit symbolique, réel, c'est pas vraiment la question, mais comment il... quelle stratégie il développe, volontairement ou involontairement, c'est pas la question, on n'est pas en train de supposer que tout le monde a une stratégie, mais en tout cas, tout le monde suit globalement une stratégie qui peut être celle d'éviter le combat, hein, d'ailleurs, celle d'éviter le conflit. Et ce qui est étonnant, justement, c'est que cette stratégie, en vérité, elle est construite sur la base de ce qu'il croit que l'autre veut obtenir. C'est-à-dire que sa stratégie, en vérité, elle n'est pas complètement interne. La plupart du temps, dans le conflit, la stratégie de l'un, elle est entièrement dépendante de la stratégie de l'autre. Et s'il suppose que l'autre est entièrement malfaisant, ben, même si lui veut éviter le conflit, il va l'éviter en se disant « cette personne est malfaisante ». Donc il va construire sa stratégie vraiment relativement à l'interprétation qu'il fait de ce qu'est l'autre et de ce que veut l'autre. Le problème, c'est qu'on se trompe tout le temps sur ce que veut l'autre. Donc, la stratégie qu'on est en train de construire, évidemment, elle part en général d'une interprétation qui est erronée. Mais en même temps, c'est comme ça que se construit le sujet. C'est aussi dans le fait de faire ces interprétations erronées, de construire des stratégies argumentatives ou dialogiques, c'est aussi comme ça que, justement, on constitue des types de comportements et des types de réactions qui, au final, vont éventuellement se sélectionner et aboutir sur des stratégies qui marchent, pour le coup, et qui peuvent éviter, justement, les conflits ou qui peuvent permettre de sortir du conflit, etc. Donc, on a extrêmement besoin, justement, de ces interprétations erronées pour pouvoir construire des bonnes stratégies après. Donc, ça, c'est l'internalité. Et l'externalité, c'est la stratégie qu'on suppose chez l'autre. Et ça, c'est extrêmement présent dans les témoignages des gens, c'est-à-dire que la première chose sur laquelle ils viennent en général, c'est plutôt sur ce que veut l'autre. C'est plutôt sur « oui, mais je me doute bien que, en fait, quand il a dit ça, en vérité, il voulait dire ça, et moi, je ne peux pas l'accepter, et donc je vais me mettre dans telle situation pour qu'il arrête d'eux, etc. » Mais l'autre, en fait, si ça se trouve, il n'en a rien à faire. Et le fait que la personne se mette en situation d'eux pour l'amener à, va faire qu'il va rentrer dans le comportement et du coup jouer ce qu'il ne voulait pas jouer. Enfin, c'est extrêmement complexe. En tout cas, les conflits vont extrêmement vite et peuvent, à partir de quelque chose de finalement assez anodin, déboucher sur quelque chose de vraiment très conflictuel. Et ce qui ressort surtout, et c'est là où je voulais en venir, ce qui ressort surtout de ces analyses, c'est que la plupart des personnes pensent que voilà, bah, avant il y avait le conflit, il n'y avait pas de conflit, là c'est conflictuel. Et avant c'était bien parce qu'on se comprenait. Et on était toujours gagnant-gagnant parce qu'on était toujours sur la même longueur d'onde et puis en plus on partageait la norme commune, on était vraiment en bonne compréhension, etc. Alors que maintenant, dans le conflit, on ne se comprend pas, c'est très négatif et en plus j'ai l'impression qu'il y a toujours un... moi, je n'ai pas vraiment envie d'être gagnant-gagnant, d'écraser l'autre, mais comme lui, il veut gagner à tout prix et qu'il veut me faire perdre, je suis bien obligé d'essayer, moi, de contrebalancer, etc. etc. Donc ça, c'est la vision très partagé, on l'a tous de toute façon quand on se laisse aller à l'interprétation, alors que quand on analyse les récits que font les gens de ces conflits, ce dont on se rend compte, c'est qu'en vérité, ils ne se comprenaient pas plus dans le conflictuel que dans le non-conflictuel. Et ça, c'est extrêmement important parce que la seule différence, c'est qu'au fond, ils n'appliquaient pas les mêmes maximes. On appelle ça en général des maximes en linguistique. Ils n'appliquent pas les mêmes maximes, c'est-à-dire ils n'ont pas c'est ce que j'ai mis sous la ligne attitude et interprétation, ils n'ont pas la même façon d'interagir. C'est ça qui change énormément en vérité. Parce que de comprendre réellement l'intention de l'autre, bon, finalement, la situation est la même dans le conflit ou dans le non-conflictuel. C'est-à-dire que de toute façon, c'est une interprétation de l'intention de l'autre. Par contre, ce qui est vrai, c'est que très souvent, dans ces relations de travail, quand ce n'était pas conflictuel, on était très complaisant. Et on se disait tout le temps, ah ouais, mais on se comprend. Bon, là, il a fait quelque chose qui ne me plairait pas trop normalement, mais de toute façon, on se comprend, donc j'accepte, et puis il n'y a pas de problème, et je t'en veux pas, et etc. Et puis l'autre applique la même maxime de complaisance, donc de toute façon, ça se passe bien. Et puis quand l'autre dit quelque chose qui semble être complètement discordant avec ce qu'on pense et ce qu'on croyait, ce sur quoi on croyait être en accord, on va être très charitable, ce qu'on appelle le principe de la maxime de charité. C'est-à-dire, on va se dire, non, mais en fait, ça y est, j'y repense. Si je réinterprète ce qu'il a dit, en fait, on peut le voir aussi comme ça. Et évidemment, cette nouvelle interprétation, elle va toujours être concordante avec l'interprétation que nous-mêmes, on a de la soi-disant norme qu'on partage, etc. Et ce qui se passe, par contre, dans le conflictuel, c'est que c'est exactement l'inverse. Ce qui se passe en général, c'est que la moindre chose qui est dite, on a une intransigeance totale à partir du moment où on est rentré dans le conflit, intransigeance totale sur ce que ça peut signifier et ce sur quoi ça va nous amener, etc. On va arrêter là parce qu'après c'est un peu trop long. Pour finir, enfin pour l'anecdote, puisqu'on parlait de ces conflits au travail, ce qui est quand même assez intéressant, c'est que mais ça n'a pas un grand rapport avec la question de la limite, c'est que finalement, la sortie de conflit, c'est la fin de l'observation, en tout cas, la sortie de conflit, souvent, elle vient sur quelque chose de symbolique. Elle ne vient pas du tout sur ce que les gens ont vraiment dit qu'ils voulaient obtenir. Elle ne vient pas du tout sur le fait que l'employé avait demandé d'être reconnu comme ci, comme ça, et que le patron ne voulait pas, et que finalement, le patron va accéder à sa demande. Ce n'est pas du tout ça, en général. Et d'ailleurs, même, ça se voit à un point assez fort, c'est que il arrive que le patron ou le collègue ou l'employé cède sur ce qu'il était en train d'exiger, sans que ça fasse sortir du conflit. Donc en général, c'est vraiment pas l'objet qui était discuté qui est au centre réellement du conflit. La plupart du temps, ce qui se passe, c'est plutôt un échange symbolique entre les deux locuteurs, entre les deux partenaires, puisque finalement, c'est une sorte de partenariat. Et cet échange symbolique, il peut porter un petit peu sur n'importe quoi, puisque la rigueur, c'est complètement irrationnel, c'est-à-dire par contre que les gens sont extrêmement sensibles à ce qui peut être une preuve d'apaisement du conflit. C'est-à-dire un signe, quelque chose qui montre que ça y est, le conflit est fini. Et c'est ça qui est vraiment étrange, c'est qu'à partir du moment où cette preuve d'apaisement arrive, ça peut arriver très vite, parfois c'est des conflits qui durent une journée, parfois c'est des choses qui durent des mois, il se peut qu'on revienne à un état de complaisance et de charité totale, très rapidement. Mais c'est vraiment très important de voir à quel point l'objet apparent du conflit n'est pas en général ce qui va résoudre le conflit. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là.
Ok. Donc, je sais pas s'il y a des questions. Moi, donc, par rapport à l'exposé. Moi, encore une fois, juste pour dire une chose très très simple, hein, comme pour la première intervention. Encore une fois, par rapport aux catégories qu'on avait essayé de mettre en place, là, on voit qu'en effet, enfin, Samuel, il a essayé de parler là de la notion de dédoublement. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il montre par rapport à ce qu'on a dit? Pourquoi est-ce qu'il donc il se différence par rapport à la notion de double qu'on a étudiée? Première instance, hein, une notion double qui était liée à rapport à la fois impossible à l'identité, rapport impossible à l'identité, mais cette impossibilité même, c'était ce qui fondait l'identité. Là, évidemment, on est dans l'aspect opposé, qui est justement où là, on parle de processus. Donc là, c'est pour ça que Samuel dit qu'il parle de dédoublement en ce sens-là, parce que je dis, parce que là, on peut dire, c'est quoi le rapport avec le thème, double et dédoublement? Le rapport, justement, avec le thème, c'est quoi? C'est que dans la relation du je et de l'autre, dans la notion de double, cette relation, elle est figée par une autre instance avec laquelle l'assimilation est à la fois nécessaire et impossible. D'où l'espèce de folie que ça produit chez le sujet. Tandis que là, au fond, on sort de cette notion de l'idée qui se rapporte à un autre et que cet autre, ça serait lui-même. Mais étant donné que c'est lui-même cet autre, c'est à la fois impossible et possible, d'où l'espèce de caractère un peu difficile des jeux de langage, hein, qui ont été finalement des jeux de langage qui ont été exprimés tout à l'heure dans la première conférence, parce que justement il y a cette espèce d'impossibilité et en même temps de nécessité. Donc là, il y a quelque chose de très différent, et la relation, ce n'est pas simplement la relation donc, du sujet à un autre, mais c'est finalement l'autre, le sujet, c'est l'autre même de la relation. Donc le sujet, il se constitue comme cet autre de la relation qui fait exister ensuite la relation entre et qui fait circuler la relation entre les différents sujets. Donc on pourrait dire de façon un peu sommaire, hein, mais d'un côté, on a un peu un sujet qui est sujet monadologique, hein, c'est-à-dire sans porte ni fenêtre, et ici, le sujet, finalement, il n'est que porte et fenêtre. C'est-à-dire, c'est un sujet qui est en pur voisinage. Hein, c'est un sujet qui est en pur voisinage. Et donc, là, c'est le contraire. Donc, une philosophie d'identité, c'est une philosophie du processus et du coup, de l'interaction. Donc, et on voit que là, il y a des... Il y a d'autres exemples qui circulent, hein, c'est-à-dire des exemples très concrets, hein, d'action, de rapport à l'autre, d'entreprise, etc. Donc là, c'est vraiment, pour moi, c'est du coup, ces deux parties font vraiment, enfin, c'était pas prévu comme ça, font vraiment écho à ces deux idées, quoi, double et dédoublement de ce point de vue. Donc, je sais pas ce que tu en penses par rapport à cette dédoublement, l'interaction, processus.
À l'origine, c'est vraiment très difficile, hein, de présenter ce travail-là parce que ça demande de synthétiser énormément de choses qui sont normalement déconnectées. C'est-à-dire que là, il y a un mélange de 4 ou 5 recherches différentes. Parce qu'à l'origine, la théorie que nous défendons, je dis nous parce qu'on est vraiment, je suis vraiment pas tout seul quand même à faire ça, mais c'est une théorie au contraire où il n'y a pas de sujet en vérité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sujet, le langage n'est pas le phénomène le plus important, etc. Donc comment on en vient finalement à poser la question du sujet? C'est parce qu'on se rend compte que avec ce qu'on appelle l'évanouissement du sujet, c'est-à-dire ce sujet qui disparaît quand on analyse réellement les relations entre les individus et les relations dans la connaissance, ce qui ressort, c'est cette notion de bordure, en vérité, de limite. Et c'est comme ça qu'on est parti à l'envers. C'est-à-dire que là, je vous présente en quelque sorte le résultat, mais nous, on a fait le chemin inverse. On est parti du fait qu'il n'y avait pas de sujet. Et c'est ensuite, en analysant, qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quand même quelque chose qui ressemblait à une limite ou à une bordure, mais que cette bordure, elle dépend de l'échange. Alors c'est pour ça que je disais au départ que c'est assez banal comme observation, parce que dans la réalité, on a tous les jours des confirmations de ce genre de choses. Vous prenez quelqu'un en entreprise, par exemple, c'est flagrant. Vous prenez quelqu'un qui, dans un certain type de structure sociale, dans un certain type d'entreprise, est vraiment radicalement un méchant, quoi. Bon, j'allais dire un gros mot, mais je sais pas, par exemple, quelqu'un qui va harceler ses collègues, qui va les embêter en permanence, qui va toujours demander à être reconnu comme étant le meilleur, le plus fort, celui à qui il faut donner des responsabilités et tout, donc vraiment un sale caractère. En vérité, vous le changez d'entreprise, vous le mettez dans un environnement complètement différent dans lequel, par exemple, il est avec d'autres gars du même genre et il va peut-être se transformer en agneau pur et sympathique avec tout le monde et au contraire soumis, etc. Donc là, enfin, là j'exagère un petit peu le trait, mais c'est presque ça, c'est-à-dire que pas seulement les limites du sujet, mais même le sujet en tant qu'il peut être perçu par ses collègues dans l'entreprise ou dans d'autres contextes sociaux, par les gens avec qui il interagit, est différent en fonction du contexte. Et c'est quelque chose qui n'est pas pris en compte, non seulement dans la théorie classique, mais même dans notre perception à nous des choses. On ne se pose pas les questions de cette manière-là. En général, on a plutôt tendance à se dire « ce gars-là est malhonnête » et on garde une image malhonnête de cette personne, finalement sans savoir si dans un autre contexte elle aurait pu avoir un autre comportement, ou ça ne nous intéresse pas. De toute façon, nous, on a besoin de catégoriser dans le temps très rapidement. Mais c'est cette question-là au départ qui motive ce type de travail. Et aussi sur la question de la culture, je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement important, parce que sur la... Du coup, le terme de sujet est peut-être pas très bien choisi pour faire la transition sur ça, mais je pense que c'est très important parce que c'est quelque chose qui est vraiment au cœur finalement, de la modernité actuelle sur ces questions-là. Donc, et quand je donnais l'exemple tout à l'heure des cultures, il y a un phénomène qui émerge actuellement aux USA qui est relativement important, c'est le fait que jusqu'ici, on avait, enfin moi, c'est la vision que j'avais de la culture américaine sur ces questions-là. Celle qu'on m'avait enseignée à l'école, c'est-à-dire un monde dans lequel les gens sont obligés de déclarer la race à laquelle ils appartiennent, parce qu'on est dans une sorte de multiculturalisme triomphant, dans lequel il faut appartenir à une communauté, etc. Le phénomène qui émerge depuis quelques années, puisque finalement tout ça a dû rentrer dans une habitude et qu'il y a d'autres comportements, c'est le fait que des gens, par exemple, qui sont nés métis, se déclarent africains. Ou se déclare blanc. C'est-à-dire que tout à coup, on se retrouve avec des gens qui se déclarent dans une communauté culturelle par choix et pas par définition. Et c'est en ce sens-là que je disais que ça a trait quand même à une certaine modernité de nos sociétés, c'est que non seulement finalement cette notion de culture vraiment bien discriminable et bien homogène, ça n'a pas de sens, mais ça va plus loin que ça, c'est que les usages actuels de ce qu'on appelait avant les cultures, enfin les communautés culturelles, va complètement dans le sens inverse. La plupart des gens se définissent par l'appartenance à une culture par choix. On se dit de plus en plus de culture homosexuelle ou de culture ouvrière ou de culture. Enfin, on va beaucoup plus loin que simplement la culture ethnique. Et donc on se conçoit tous plutôt comme à l'interface entre des réseaux culturels et des communautés, etc., que vraiment comme appartenant à une communauté. Donc on est vraiment plus dans cette notion de limite comme une interface par laquelle on communique avec le reste, que dans une notion de limite comme un moyen de discriminer les choses de manière précise et de séparer les entités, etc.
Ben, voilà, enfin, pour moi, enfin, il y a beaucoup à dire, mais donc voilà, s'il y a une question.
Oui, je voulais savoir, c'est alors une question finalement concernant le rapport du travail qui est mené là et puis du cadre dans lequel il se mène par rapport. Finalement, est-ce que la psychanalyse travaille depuis déjà quelque temps? C'est-à-dire que la notion quand même de sujet comme étant une catégorie relativement vide, ou de la constitution du sujet toujours voilà, à la fois la constitution du moi comme passant nécessairement par la question d'une relation. La question de la différence entre ce moi et ce qui a été appelé un sujet. Ça me semble, ou ce que vous avez dit sur les différents tests. Je veux dire, ce qui est produit là, ce qui est quand même tout de même frappant, c'est que finalement, c'est une théorie qui élimine ou tient à l'écart de son champ d'observation toute forme d'inconscient. Parce que finalement, on en arrive à des énoncés du type bah, si finalement il est sincère, il vous dira ça. Alors que voilà en vérité ce qu'il pense. Et ça, c'est une chose très, évidemment très très compliquée à situer, parce que soit on retombe à enfin, le fond de l'affaire, soit c'est que tout ça sont le jeu des relations imaginaires qu'on peut analyser, dont on peut donner des exemples comportementaux, etc. Voilà, et en même temps, il y a cette exclusion qui, moi, me semble absolument, enfin, qui pour moi fait grandement question. Parce que, pardon, excuse-moi, juste parce que ça pose aussi la question du coup du rapport tu as parlé tout à l'heure de la position de l'observateur, donc du coup de la position de l'observateur philosophe analytique sur les situations qu'il observe, disant du coup oui mais là il a voulu dire ça, il a interprété ça comme ça, etc. Alors que finalement, du fait de la situation analytique, cette question-là, elle est interne à la position dans la cure de, voilà, de l'analyste, et de l'analyse en l'occurrence.
Sur je reviens sur le problème de la philosophie analytique, parce qu'à mon avis, c'est un truc important. Par opposition à ce qui avait été dit tout à l'heure, un peu par jeu, je me suis dit que j'allais jouer le jeu du rôle du philosophe analytique présent dans le truc. Il faut bien être conscient quand même que sur ce travail-là, en vérité, c'est un travail de... D'abord, d'un point de vue purement théorique, sur les aspects théoriques du projet, c'est une critique profonde, en vérité, de la philosophie analytique, à travers ce que j'appelle le réductionnisme, etc. Et ensuite, sur la partie pratique et concrète, c'est quelque chose qui n'existe pas tout à fait en philosophie analytique. Il n'y a pas d'études de terrain, on va dire, etc. Donc, réellement, en fait, je ne suis pas du tout dans un paradigme analytique, premièrement. Ça va même plus loin que ça, c'est que sur l'aspect, justement, relation avec la psychanalyse, etc., je n'intègre pas l'inconscient dans la mesure où je pense qu'on... je pense que la psychanalyse parle de quelque chose de particulier dont je ne parle pas et dont cette théorie n'a pas vocation à parler. Néanmoins, ce qui se passe, c'est que, évidemment, les intuitions, c'est pour ça que je disais au départ, cette proposition, elle est banale, finalement. Les intuitions de départ, c'est de donner un sens, enfin, le projet de départ, finalement, c'est de donner un sens à des intuitions qui viennent au fond de la psychanalyse, donc l'être est un être de relation, etc., mais de leur donner un sens dans le reste du champ des sciences humaines, c'est-à-dire typiquement en sociologie, ou en sciences sociales en général, dans la méthodologie des sciences humaines, parce que moi, c'est quelque chose qui m'a frappé, notamment sur le terrain, en travaillant avec des psychologues, et quand on mélange dans une salle des psychologues de la psychologie sociale, de la psy de l'éducation, psy-développement et psy-analytique, clinique, c'est justement à quel point la psychologie clinique est traitée comme le parent pauvre, qui, n'ayant pas de méthode scientifique de développement, d'épistémologie, etc., n'a pas voix au chapitre, finalement, sur les aspects théoriques du problème. Et a voix au chapitre, au fond, uniquement sur les aspects cliniques, on dirait, pour le coup, c'est-à-dire la cure, la résolution des problèmes au travail, par exemple, etc. Donc moi, c'est quelque chose qui m'a frappé. Pour autant, c'est pas parce que... Enfin, j'ai envie de respecter quand même une sorte de distance, c'est-à-dire je pense que c'est important d'introduire effectivement l'idée, par exemple, que l'être est un être de relation, sans pour autant verser dans la psychanalyse, c'est ça que je veux dire. Et sur l'aspect plus particulièrement de l'inconscient, donc j'ai sauté un slide à un moment qui expliquait le positionnement théorique dans lequel je me situe. Je l'ai sauté volontairement parce qu'en fait, si je l'explique, ça donne ça pourrait donner l'impression qu'on est vraiment dans une théorie computationnaliste. Mais y a clairement un lien quand même avec la psychanalyse sur ces points-là. C'est-à-dire qu'en gros, donc c'est ce que j'appelle l'isomorphisme de Poincaré-Berthoz. C'est une notion qui a été développée par un mathématicien qui s'appelle, un géomètre, qui s'appelle Bernard Tessier. Et l'idée, justement, c'est de, par exemple, dans la théorie de la signification, de travailler sur une théorie de la signification dans laquelle on inclut tous les processus inconscients, pas obligatoirement l'inconscient freudien, mais les processus inconscients qui sont à l'œuvre dans notre façon de percevoir le monde. Donc il y a quand même, si vous voulez, une relation, mais qui ne se place pas sur le même niveau. C'est-à-dire on est bien en train de parler de phénomènes pulsionnels, en quelque sorte, ou de phénomènes inconscients, mais pas obligatoirement dans le sens où irait la psychanalyse. Là, on est plus sur l'explication des processus cognitifs, la signification des énoncés, la signification du langage, pas sous un angle réellement psychanalytique, mais en essayant d'importer un petit peu les mêmes moyens. Alors, je sais pas si je me fais bien comprendre, mais je pense qu'il y a clairement un lien. Mais moi, je souhaite quand même respecter la distance, c'est-à-dire, pour moi, c'est à la fois une manière d'importer ce que la psychanalyse a dit d'important, de l'importer dans ce champ-là, parce que les sciences cognitives sont clairement réductionnistes et mal formées. Hein, tout le monde le sait, il y a clairement un problème avec les sciences cognitives. Donc moi, à mon avis, c'est quelque chose qui est salutaire pour les sciences cognitives, et le fait de respecter la distance, à mon avis, c'est salutaire pour pour la psychanalyse. C'est-à-dire, je ne pense pas que ce serait bon de justement trop forcer le mélange au-delà de ce que j'essaye de mettre, quoi. Mais je connais très bien justement des. Enfin, au début d'ailleurs, j'avais prévu de venir avec un psychiatre, un collègue psychiatre, mais je perçois bien, si vous voulez, le problème qu'il peut y avoir dans la relation justement des sciences cognitives et de la psychanalyse. Il y a vraiment un gros problème méthodologique, conceptuel, etc. Les gens ne s'entendent pas parce qu'ils ne conçoivent vraiment pas les mêmes choses au départ. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est de faire bénéficier quand même les sciences cognitives de cet apport-là sans vraiment avoir à dire qui est le meilleur. Et, enfin, voilà, pour moi, il n'y a pas de question. Pardon ? Exactement. Voilà, voilà. Non, je pense qu'il y a une collaboration à créer importante. Moi, c'est une anecdote pure, hein, mais ça m'a toujours fait rire les psychologues de la psychologie sociale qui eux-mêmes n'ont pas fait de psychanalyse qui ne sont même pas soumis à leur propre méthode. Enfin, il y a vraiment des choses assez étonnantes.
Ouais, juste répondre, enfin essayer quoi, à ce que tu as dit, parce que enfin il me semble justement que ce que dit Samuel, c'est justement pas d'analyser des intentions en dernière instance qui permettraient ensuite d'attribuer une vérité ou non. Tu as dit la vérité, etc. Comme tu disais, c'est justement pas ça, vu que finalement la situation initiale, c'est une situation à la limite d'indistinction de la signification, hein, puisque, pourquoi ? Parce que la signification ne peut émerger que de la relation de signification. Et donc, de ce point de vue, la psychanalyse, de certaine manière, même la théorie d'inconscient, est d'une certaine manière plus rationaliste, puisqu'elle suppose un sens, même dans ce qui n'a pas de sens. Tandis que là, le sens, il émerge de la relation, on ne suppose même pas une intériorité d'un sens qui ensuite se diffuserait à travers différentes actions, etc. Donc, de ce point de vue-là, la théorie d'inconscient, elle est plus. Plus réifiante que là ce qui est dit.
Sur la question des rapports de langage, le fait qu'il n'y ait que des malentendus, oui, ça c'est une chose qui a été posée.
Oui,
c'est vrai que si tu veux,
moi je travaille dans un domaine assez particulier où en fait c'est pas moi, c'est le domaine qui veut ça, c'est la tradition du domaine et les objectifs de ce champ disciplinaire. On veut quand même aller plus loin que simplement la compréhension. C'est-à-dire, on veut. C'est comme ça, c'est parce que le domaine est constitué comme ça, c'est que on veut quand même décrire, formaliser, représenter. Et c'est vrai que pour pouvoir faire ça, on a besoin de réduire. On a toujours besoin de réduire. Quand on veut passer à la formalisation, il y a besoin d'une réduction. Moi, ce sur quoi je me place, c'est sur l'idée qu'il ne faut pas être réductionniste, il faut réduire. Mais pas réduire l'objet, il faut réduire le problème. Néanmoins, c'est sûr qu'il y a là, par contre, il y a une différence claire avec une discipline comme la psychanalyse, en tout cas la psychologie freudienne, c'est la seule que je connais vraiment, dans la mesure où, évidemment, la psychologie clinique, elle n'est pas ancrée dans cette démarche de formalisation. Son objectif principal, c'est pas formaliser. C'est beaucoup plus décrire, expliquer, permettre d'aider les patients, de résoudre des problèmes, etc. Mais c'est pas obligatoirement une démarche de formalisation. Alors que là, c'est clair qu'on est quand même dans un truc où on cherche à formaliser d'un point de vue mathématique, d'un point de vue technique, voire même à simuler des comportements. C'est pour ça que j'avais pas présenté le slide, parce que il y a clairement aussi dans ce travail-là une influence qui en fait vient de la logique mathématique, mais pas seulement, de l'informatique par exemple. Donc je voulais pas forcer justement le décalage, mais il y a une démarche de modélisation quand même, et qui va pas du tout dans le même sens à mon avis que la psychanalyse, et sur ce point là je pense que c'est bien de garder cette distance, quoi. Sinon moi, je pense que c'est important de bénéficier des apports de la psychanalyse, mais en même temps de ne pas l'introduire complètement, parce que sinon, c'est comme si on disait on va vous faire des modèles computationnels. Donc ça, là, on dépasserait l'intérêt justement de poser la question dans ces termes-là, et on tomberait dans un autre excès, quoi, qui serait de dire la psychoanalyse, bon, en fait, on n'en a pas besoin, on fait un système formel et puis c'est réglé. Je pense que ce qu'il faut éviter, justement, c'est ça. Et tout l'objectif de cette méthode, enfin tout ce qu'on appelle l'isomorphisme de Curie-Howard, etc., c'est d'établir des correspondances conceptuelles, mais de ne pas essayer de soumettre un domaine ou un autre à une organisation conceptuelle qui n'est pas la sienne. Donc de créer des ponts, en fait, sans obligatoirement forcer dans un sens ou dans un autre, etc. Chose que n'a pas faite la philosophie analytique, hein, ça c'est clair. Le modèle analytique a été extrêmement dominant et totalitaire.
Donc, merci pour votre attention. S'il n'y a pas de questions, on va conclure la soirée. Donc, je vous remercie d'avoir assisté à cette première session des séminaires sur le double et le doublement de philosophie à la Maison Populaire de Montreuil. Donc, demain, samedi 7 mars, il y aura donc une deuxième partie qui est consacrée au théâtre. Et donc, il commencera aussi à 18h, qui finira aussi, peut-être plus tôt. Et donc, voilà, donc je vous remercie et à demain.